première chose à savoir sur mon frère. Il est mort le jour de son 10e anniversaire. Ce qu'il faut savoir de moi.
Je suis né 9 mois après. Maman dit que je suis revenu. Personne ne nous connaît mieux qu'elle. Peut-être a-t-elle raison. C'est évident, dit-elle. Déjà, cette histoire du piano. Le piano était à lui. Pendant longtemps, je ne le voyais que comme un meuble. Mais un jour, seul à la maison, je me mis à jouer sur le clavier. Je cherchais à trouver une mélodie que j'avais dans la tête. Ce n'était ni facile, ni difficile, plutôt logique. Après ça, le piano était à moi. J'ai commencé à prendre des cours. J'avais 6 ans, comme Jacob à l'époque. La professeure était la même et elle m'a regardé familièrement. À la fin de la première leçon, elle a sorti un tas de notes. C'était des chansons écrites par mon frère. Suis-je moi ou suis-je mon frère? Comment savoir si mes songes sont à lui ou bien à moi? Dans un mois, j'aurai 10 ans et je sais une chose avec certitude. Il faut que je fasse très attention à tout ce que je vois et tout ce que j'entends. Peut-être que comme tout se répète, peut-être que tout se répète, peut-être que c'est mon dernier mois en vie. Oula. Voilà. Donc c'était un extrait de Mon frère nocturne de Yona Elgren, paru aux éditions Cambourakis, ou qui va paraître, je ne sais pas trop.
Paru, je crois.
Paru aux éditions Cambourakis.
Et donc c'est On est là pour ça sur Radio Pulsar.
C'est On est là pour ça sur Radio Pulsar, avec ce soir Isabelle, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Emma, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Hélène, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Ben, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va?
Oui, ouais. Et Thomas aux manettes.
Et Thomas aux manettes,
derrière la vitre.
Voilà. On est 5.
Ça fait ouais, beaucoup.
Énorme.
Record.
On peut faire mieux.
Oui, donc j'ai découvert ce livre il n'y a pas très longtemps, parce que ouais, il vient juste de sortir. C'est un peu un hasard en fait. C'est un très beau livre.
Que tu l'as.
Comment?
C'est un hasard qui sorte ou
c'est non, c'est un hasard que je l'ai. C'est un peu un coup de cœur. C'est un très beau livre qui n'est pas vraiment une bande dessinée. C'est un peu.
C'est quand même des images et du texte.
C'est quand même des images et du texte. Ça, c'est pas non plus du texte illustré comme on peut voir dans les livres pour enfants non plus.
Ben non, c'est pas pour enfants spécialement.
C'est pas pour enfants spécialement.
C'est pas vraiment en noir et blanc, parce que finalement c'est en marron et blanc.
Voilà, ouais.
C'est un livre avec des images.
Donc un livre un peu indéfinissable. La couverture est très très belle. Moi j'adore.
Oh, mais pas que la couverture.
Ouais. Non, et en fait, ouais, Johanna Elgren, une espèce de dessin. Très très beau, on a l'impression qu'elle alterne plume et pinceau. Oui, c'est une fille. C'est une Suédoise. Et d'ailleurs, voilà. ce qui est intéressant, c'est qu'elle a écrit elle-même en français en fait. Ce qui a été assez intelligent de la part de l'éditeur, c'est qu'il a gardé un peu la saveur du français dit par une autre, par quelqu'un qui a une autre culture en fait, qui a une autre langue en fait. Donc c'est assez beau. Donc la situation est posée dans ce que j'ai lu, c'est-à-dire que c'est un petit garçon qui va avoir 10 ans et il sait que son frère, le frère qu'il n'a jamais connu, donc qui est mort avant sa naissance, avait 10 ans également quand il est mort. Et en fait son frère vient le visiter chaque nuit, c'est son frère nocturne, donc d'où le titre. Et la question derrière tout ça, c'est est-ce que voilà, j'ai le même prénom que lui, je fais les mêmes choses que lui, est-ce que l'histoire va se reproduire ou est-ce que je saurais déjouer les plans du destin? Mais c'est pas dit comme ça en fait,
c'est pas dit comme ça, parce que c'est le point de vue, enfin on a entendu dans ce que tu as lu du petit jeune homme. D'ailleurs je sais même pas son prénom.
Bah Jacob, il s'appelle Jacob. Bah
oui,
aussi
je vais mettre Jacob forcément. Donc du Jacob 2.
Voilà, ouais. Jacob, en plus il a un poids parce que sa mère lui a donné le même nom en fait. Tout autour de lui fait référence à son frère, donc sa professeure de piano, sa maman. Donc il sait juste en fait par une camarade de classe en fait qui va peut-être, enfin une camarade qui comprend peut-être les jeux. On ne sait pas trop effectivement, on ne sait pas trop exactement, mais qui va peut-être réussir.
Enfin, on verra. Faire sortir de ça, mais on verra bien. Suspense, alors on ne va pas dire la fin. Mais quand même, ouais, j'ai beaucoup aussi. Vraiment, c'est mon coup de cœur pour l'instant des meilleurs livres de l'année.
Ah, c'est
trop beau. Deux coups de cœur. Ouais. Vous verrez quand vous l'aurez lu, vous direz pareil. Et ce que j'aime vraiment bien dans ce livre, c'est qu'il y a ce côté suspense que tout de suite on est mis dans la peau de ce gamin et on se dit vraiment peut-être qu'il va mourir à 10 ans aussi. Et puis on croise des personnages comme lui, on reconstitue un peu l'histoire. Il joue du piano, il joue des mélodies que lui dit, c'est son frère qui lui dicte. Parce que son frère aussi jouait très bien du piano, sur le même piano. On comprend aussi que sa mère s'est séparée de son père. Est-ce qu'il va aller voir? Il y a plein d'autres choses.
Suite à la mort de son
suite
frère.
Suite à la mort du frère et de la réaction de la mère. Parce que quand même, c'est pas non plus super sain d'appeler le gamin qu'on fait juste après la mort du premier du même prénom. Je pense que c'est déconseillé par tous les psychanalystes. Et voilà, il y a plein de choses un peu tordues, y compris cette petite nana qui une rencontre au cours de piano avec qui ça colle tout de suite. En même temps, on se dit, elle est peut-être aussi un peu tarée. On sait pas trop, mais elle lui fait faire des trucs à ses limites. Enfin, un univers de gamin qui s'émancipe aussi. Et qui se construit ses propres règles. je trouve qu'il y a vraiment une espèce de vent de liberté et en même temps de trouille qui surnage dans cette histoire.
Je trouve la liberté, en fait, dans la forme, en fait, je trouve que c'est assez rare de trouver ça. Je trouve cette espèce de dessin assez très maîtrisé, en même temps dans une forme très libre. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de cadre, en fait, tout est vraiment.
Les dessins se baladent sur la page, on ne pense jamais à de l'illustration.
C'est assez beau. Moi, en fait, ça m'a fait penser à un bouquin qui n'a rien à voir, qui s'appelle Le Pacha au seuil, de Blutch et Fabio. Tu te rappelles de ce bouquin-là? Je sais pas.
Ouais, je me rappelle.
Un petit bouquin carré qui a pas vraiment ni queue ni tête, mais en fait, au niveau visuel, juste, hein, pas au niveau du fond du tout, mais au niveau visuel, ça. Dessin, pinceau, plume, une espèce d'histoire un peu improbable comme ça, voilà.
Sauf que là, l'histoire est quand même.
Ah oui, l'histoire est
très linéaire. Ouais, le Pacha, ça partait un peu dans tous les sens, on sait pas trop qui il est. Là, vraiment, on s'attache à des personnages de bout en bout.
Ouais. Une réussite.
Vraiment, ma foi. Johanna Elgren, non seulement un dessin très, très avenant, mais en plus une narration maîtrisée, comme on dit, pour nous faire découvrir des choses. Oh, c'est trop.
Alors, on avait un autre bouquin très différent, celui-là.
Oui, encore une bande dessinée, pour le coup, un peu plus bande dessinée, puisqu'il y a des cases, même bien qu'elles soient arrondies, d'une auteure également, qui s'appelle Nine Antico, aux éditions Ego Comics. Et le livre s'appelle Le goût du paradis. Et c'est son premier livre. Et elle y raconte, sa jeunesse et sa préadolescence, jusqu'à presque son adolescence. En gros, toute l'histoire est un peu centrée sur comment attirer les garçons, mais assez précocement, parce qu'elle commence dans la cour de la maternelle, avec la technique de rester contre un arbre et de mater tout ce qui passe, etc. Et moi, j'ai
bien connu technique, j'ai l'impression.
Non, je me rappelais plus. Moi, j'allais plutôt jouer au foot avec les garçons, mais on n'avait pas le droit. C'était pour braver l'interdit.
Déjà, c'était.
Ouais. Et
C'est très inscrit dans les années 70.
Ouais, fin des années 70, début années 80. Ouais. C'est ça, j'ai bien aimé ce livre. Alors après, je crois que je suis un peu la seule. Mais peut-être parce que finalement, ça m'a rappelé plein de choses de mon enfance. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que j'étais prête à dire. J'ai déjà fait un coup de gueule sur les ondes de Radio Pulsar contre les éditions Diantre qui publient une espèce de navet fait par des filles, soi-disant pour des filles, et qui sentent la pouffe à plein nez. Pour résumer.
C'est
donc j'étais assez attentive à une jeune auteure, premier livre, etc. Et ce que je trouvais assez bien dans ce livre, c'est qu'elle a un discours super banal. Bon, c'est de l'autobiographie aussi, hein. Il n'y a non plus rien arrivé d'extraordinaire. Sauf qu'en soi, évidemment, quand on est ado, embrasser un mec, c'est assez extraordinaire, mais voilà, ça s'arrête là. Et ce que j'aimais bien, c'était justement l'ancrage discret, mais bien présent, un peu sociologique, d'une nana de banlieue des années 80 qui cherche à exister, quoi.
L'aspect le plus intéressant, en fait, c'est cette idée que c'est un peu une gosse de Bourges. Enfin, elle le dit comme ça, on n'a pas l'impression non plus que ses parents sont très fortunés, mais un peu intello, tout ça. Et qui est dans un univers un petit peu. Elle parle du racisme, pas du racisme. Racisme anti-blanc, c'est pas un très bon terme, mais.
Elle parle pas comme ça, mais
oui, elle dit que, ouais, comme je suis blanche. Voilà, voilà. Mais bon, enfin, moi je trouve que c'est un bouquin qui reste assez court et qui dit quand même beaucoup de choses qu'on a déjà vu ailleurs et un peu mieux dit quand même. Moi j'ai bien accroché au dessin parce que c'est un dessin qu'on a pour le coup assez original, quoi, qui rappelle des choses des années 70 un peu. Il y a des choses
aussi intéressantes,
les cases rondes, tout ça, les petites fleurs, machin. Ouais, ça fait très années 70 pour le coup, effectivement. Ouais.
C'est agréable à lire. Le problème, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'on a l'impression de l'avoir déjà lu et mieux, et même en littérature ou d'autres titres d'ailleurs d'Ego Comics, puisque cette maison est quand même spécialisée sur l'autobiographie.
Donc il y a de quoi comparer pas loin. Ouais. Tu penses à quel titre d'Ego Comics?
Je pensais plutôt à des livres de littérature, mais j'ai pas.
Bah moi pour le coup, enfin tu vois, j'ai déjà parlé de Chester Brown et de I Never Liked You, je ne t'ai jamais aimé, et franchement là il y a, enfin
c'est vrai, tu prends pas les pires non.
non mais d'accord, mais bon voilà, juste on se situe dans le même champ en fait, dans l'adolescence racontée par un auteur, enfin bon effectivement Chester Brown, quand il fait Je ne t'ai jamais aimé, il est plus mûr comme auteur peut-être que Nine Antico qui c'est son premier livre quand même, bon donc c'est quand même une voilà.
Ouais, il y a de la marge un peu. Ouais. Mais c'est vrai que tu parlais de Summer of Love à l'association, et là j'avoue qu'effectivement c'est complètement une carpette à côté. Oui. Ouais.
Summer of Love de David Drexler.
David Drexler, c'est un vrai chef-d'œuvre.
Ah, oui.
Mais voilà, qui est vraiment concentré sur l'arrivée d'une famille middle class dans une banlieue middle class, et la quête du garçon, des garçons, et la sœur qui d'ailleurs en plus s'intéresse même pas aux garçons, la honte quoi. Enfin bon. Non, c'est vrai qu'on peut, trouver des meilleurs livres. Alors, d'accord, c'est vrai, mais n'empêche que moi, j'ai passé un bon moment. Je me dis, je préfère lire Nine Antico que regarder un soap-opéra, quoi. Ça raconte peut-être la même chose.
Oui, c'est vrai.
Ou ouais. Regarder, c'était quoi, pas nos années collège ? Non, t'es pas né dans les années 70, non ?
Moi, je m'en rappelle.
Voilà, merci, Ben.
Moi aussi.
Qu'on déjà fait quand même.
Oui, c'était vous ne rêvez pas.
Camille.
Bien sûr, on est là pour ça.
C'était Camille dans un titre qui s'appelle Canard Sauvage sur son nouvel album. Donc elle abandonne le bourdon de son précédent album, le fil, où elle tenait la même note pendant tout l'album. Et
c'est un peu chiant d'ailleurs, il n'y a pas de chanson, elle fait tout le temps.
Un grand succès au Tibet, hein, quand même.
Donc dans cet album-là, elle laissait plein d'autres animaux avec ses amis.
D'accord.
Voilà, il y a plein de sons et pas mal de sons d'animaux.
Donc la prochaine chanson, c'est Meumeux, d'accord ?
Non, c'est Cats and Dogs, qu'on écoutera un peu plus tard dans l'émission. Voilà, mais voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire.
Bon, je vais
Camille,
prendre la suite.
Que j'aime beaucoup.
Juste pour... Voilà, donc on a...
Il y a une autre Camille qui nous écoute peut-être.
Peut-être. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes les Camilles.
Voilà. Tous les Camilles.
Pourquoi une ?
Non, mais c'est... Oui, mais
je... Même les Camilles garçons, on les aime aussi.
Oui. Voilà.
Donc, je voulais prendre la parole.
Gentille, hein,
oui.
Ah oui, bah Camille...
Enfin, laissez-la parler, hein.
C'est pas grave. Bon. Donc... Il y a quelques semaines, on avait abordé à ce micro ce qui se passe sur le web en matière d'encre électronique et de e-littérature, wiki-roman, les expériences de romans collaboratifs, etc. Et on avait envie de continuer sur ce sujet, d'aborder une discussion ensemble sur la presse, notamment tout ce qui se passe actuellement sur Internet au niveau des nouveaux médias, également de l'édition. Voilà, donc c'est la discussion est lancée. On peut parler. Enfin voilà, qu'est-ce que ça change. Bon, au niveau de l'édition notamment, c'est ce qu'on trouve actuellement sur Internet. Bon, mis à part les sites qui vendent du e-book, en fait, des livres déjà numérisés pour les futurs e-readers, mais bon, ça, ils sont pas encore là, bien qu'ils vont arriver peut-être plus tôt. Mais comme j'avais dit, ils se sont pas entendus sur les formats, donc. On ne sait pas encore ce que ça va donner. C'est pas un grand et franc succès aux États-Unis quand même.
E-book. Déjà la semaine dernière, tu avais conclu quand même, la fois dernière, que le livre papier, bien tout le buzz qu'on nous fait, ça a quand même de beaux jours devant lui.
Je pense aussi. En tout cas, pour ce qui est de tout ce qui est graphique, beaux-arts, c'est sûr que... Et puis également, en fait, j'ai insisté sur le fait que sans médiation, tout ce qui peut se faire sur Internet n'existe pas. Si on va pas sur... Et d'ailleurs, pour parler des éditeurs, donc certains éditeurs ont mis en ligne leurs ouvrages, ont numérisé leurs ouvrages et proposent de les vendre comme ça. Il y avait eu... Donc, il y a l'expérience édition de l'Éclat qui va donc sur tout le forum parler, dire que c'est formidable. Il y avait son copain d'ailleurs Aurélie qui faisait la même chose, sauf que ça s'est cassé la figure en fait. Voilà, Aurélie, c'est une maison d'édition de livres d'informatique qui, voyant ses ventes se réduire, on va dire, dans les librairies, avait commencé à numériser. Et finalement, c'est vrai que les ventes donc de contenu sur Internet ont dépassé largement les ventes matérielles de livres, et le résultat, donc ils étaient très contents, il y avait du passage, etc. Sauf que ça représentait un chiffre d'affaires trop petit, trop mince, trop faible, et qui a causé la fermeture de cet éditeur en raison du trop petit nombre de lecteurs. Et il termine, quand
c'est sur un payant, article, peut-être, hein, parce que c'est pareil, une fois qu'on a acheté un livre numérisé, on peut l'envoyer facilement.
Oui,
peut-être ça.
Ils n'avaient pas ce type de, en tout cas, de problème de DRM, ils n'avaient pas ce. Ils avouaient qu'il n'y avait pas ce genre de possibilité. J'avais le chiffre de perte. En tout cas, le résultat, c'est que il avoue franchement que sans médiation.
Ouais.
C'est-à-dire que on ne peut pas proposer un seul, surtout sur de l'informatique, du produit informatique, on ne peut pas proposer qu'une seule chose. En fait, il faudrait que l'on aille sur ce site, prendre ça, sur un autre site, prendre autre chose.
Il faudrait des sites libraires,
Il finit par dire que finalement, sans médiation, c'est pas possible. Il faut du choix.
On est toujours dans les mêmes problématiques que quand on n'est pas en virtuel, quoi. Ouais.
Et il y a d'autres. Donc, alors, il finit par dire que c'est quand même en librairie que c'est le mieux, puisque là, il y a un vrai médiateur. C'est une conclusion qui est assez réjouissante. Malheureusement, la librairie, on en a parlé déjà, avec surtout ce qui vient de se passer, puisque je vous avais aussi parlé du fait que les sites de vente de livres qui pratiquaient le port gratuit ont été attaqués par le SLF,
syndicat
de la librairie française, et que donc en première instance, le syndicat avait gagné. donc voilà.
Non, juste, on rappelle un petit peu, c'est-à-dire que le syndicat des libraires français faisait des procès au site Fnac.com ou Amazon.com, je crois.
Alors pas Fnac,
à la page.
À la page Amazon.
Ouais, parce qu'en fait, ces sites-là proposent le livre au même prix qu'en librairie et sans le port, c'est-à-dire que c'est aussi, ça coûte le même prix d'acheter en ligne que d'acheter en librairie. Voilà, ce qui fait qu'en fait, finalement, le prix du livre n'est pas le même, puisque finalement, si on...
Il y a une prime qui se rajoute, voilà. c'est le port, c'est l'emballage.
Voilà, donc
ça contrevenait à la loi Lang, puisque...
La loi Lang, donc sur le prix unique du livre. Ouais.
Voilà, du prix unique. Disons, il ne faut pas que ça représente 5%... plus de 5% du prix du livre, or c'était le cas. Et c'était la semaine dernière, à la page a fait appel en cassation de cette condamnation et a gagné. Donc en cassation ils ont gagné. Donc désormais, d'ici sous peu, ce sera donc légal. Enfin, les frais de port gratuits pour le livre seront légaux. J'espère qu'ils vont l'étendre à tout, d'ailleurs. Quoique le livre.
Parce qu'ils le font bien que pour le livre.
Quasiment, oui.
Ben en fait,
voilà. Donc, c'est un petit peu un chiffre d'affaires des libraires qui est... Alors, les libraires, bon, se laissent pas faire. Ils sont en train de monter tous des plateformes où, notamment avec le syndicat de la librairie française. Mais il y a d'autres... Il y a Place des libraires qui a été présentée au dernier salon du livre de Paris, où on peut, donc, lorsqu'on arrive sur ce site, choisir d'aller chercher le livre chez son libraire le plus proche. Voilà. Ce qui arrive assez souvent, finalement.
On sait par le site que le livre existe, qu'on peut le consulter et qu'on va le chercher physiquement.
Et ça
peut marcher. Des vrais gens.
Voilà. Il peut y avoir des problèmes de poste, là, bon, il n'y en a pas. Enfin, voilà, ça peut. Ça permet, ça permet à certaines personnes même de se rendre compte qu'ils avaient une librairie en bas de chez eux. C'est arrivé. Voilà.
En fait, l'idée c'était quand même d'élargir à la presse ce soir.
Voilà,
un peu,
parce que finalement, est-ce que le e-book va tuer le livre Non.
Bon, a priori.
A priori, le livre va subsister, mais c'est vrai que la presse papier, c'est un peu la crise, quoi. Ouais. Et c'est vrai que aussi, peut-être que sur Internet, les nouvelles étant un peu éphémères.
Mais je pense que, c'est qu'il y a la même idée d'éphémère, en fait. C'est-à-dire que sur un blog, un site, un machin, tu peux aller voir tous les jours et c'est différent, comme un journal, en fait. Voilà. Donc, effectivement, un journal, tu l'achètes, tu le jettes, c'est un peu la même chose que je vais voir un site Internet et j'éteins mon ordinateur, quoi. Enfin, il y a un peu le même rapport avec l'objet, je pense. Enfin, effectivement, c'est pas la même chose, c'est du papier, mais. C'est comme, j'ai l'impression que c'est un peu, la presse sur Internet, c'est un peu comme le podcast pour les radios, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si on podcastait nos nouvelles tous les jours, quoi. Donc effectivement,
Ça se fait déjà. Les fils RSS ou les choses.
Ouais, voilà, les fils RSS, les podcasts, les machins. Ouais.
C'est ce que fait les Échos avec son e-reader aussi. Ouais. Permet d'avoir sur ton reader tous les jours des nouvelles. Mais bon, c'est les Échos.
Et puis c'est vrai qu'il y a quand même toute une part de la presse, en particulier la presse alternative, qui n'est même plus papier, en fait. C'est-à-dire qu'il y a,
notamment la critique. La critique, on l'a vu avec la bande dessinée. On est conscient que dans la presse qui existe, il n'y a pas de critique de bande dessinée digne de ce nom, qui savent lire. Et les portes sont fermées, quoique ça a un petit peu, sauf en janvier, bien sûr, pendant Angoulême. Bon, ils se rendent compte quand même qu'ils ont raté quelque chose. Donc déjà, on sait quand on est éditeur de bande dessinée, que c'est les blogs et les sites de lecteurs ou les sites spécialisés bande dessinée qui font vendre aujourd'hui. Avec des très bons.
Je sais pas si c'est qui. Enfin, je sais pas s'ils font vendre, mais en tout cas, c'est les seuls qui sont capables d'écrire sur la bande dessinée, des choses intéressantes et de faire évoluer le médium aussi de l'intérieur. Quoi, c'est ça qui est intéressant dans la critique, et c'est ce qui existe déjà en cinéma, qui est relativement développé en cinéma. C'est la critique cinéma aussi.
Il y a eu plein de choses, surtout dans les cahiers du cinéma. Quoi. Voilà. Il y a eu tout entre la remise en cause et la défense de leur statut, qui était celui de critique papier, etc. Et l'argument qui était développé par les cahiers du cinéma, c'était qu'ils ne se positionnaient pas en supérieur. Enfin, il y a eu des attaques assez virulentes quand même dans le courrier des lecteurs pendant quelques mois. Entre les lecteurs, notamment des lecteurs qui écrivent, j'invite les gens à aller voir sur le forum des cahiers du cinéma où il y a quelques pages de critiques de lecteurs, de cinéastes et cinéphiles assez chevronnés qui écrivent très bien sur le cinéma et qui disaient, nous c'est pas notre métier, mais on fait ça et on a le droit de le faire. Après, où tout le monde à un moment quand même s'est retrouvé, c'est que c'était important de conserver des gens dont c'est le métier de faire ces choses-là, qui prennent le temps, qui soient toujours un peu, pas des fers de lance ou des gens qui soient à la tête ou à l'avant-garde de cette critique-là, mais qui soient, qui proposent une production régulière, mensuelle, avec un peu de recul, avec un peu de choses, avec le temps d'aller voir, avec le temps de ramener des informations, avec le temps de publier, de faire un travail éditorial, plutôt que la critique instinctive perdue au milieu de la...
Mais c'est ce qui se passe pour la bande dessinée, voilà, hein, parce que de toute façon, il n'y a plus de support papier, blanc, donc ouais. Il faut...
Mais alors, voilà, alors après... voilà, donc après, puis le problème de la critique cinéma, c'est que... Enfin, je pense que c'est pour la critique partout, c'est que du coup, c'est tellement mélangé et noyé dans diverses... multitude de choses.
C'est-à-dire
que
je crois qu'il en va pour le cinéma comme plein de choses au niveau de la presse internet, c'est que n'importe qui peut s'y mettre, publier en ligne et faire son truc, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que finalement, les trucs les plus intéressants, ça reste quand même les choses qui sont faites par les gens qui savent faire, quoi. Enfin, qui
savent écrire. Alors, qui c'est qui désigne les gens qui savent faire
Bah oui, c'est ça. Mais après, après, c'est sûr que internet permet aussi ça, permet à des gens de publier, même s'ils n'ont pas, même s'ils n'ont pas de support papier, quoi. Des gens qui ont peut-être un autre point de vue, effectivement. De le diffuser, quoi.
Je pense que ça, c'est un peu né avec la presse aussi, parce que finalement, des sites comme Indie Media ou Indie Media, je sais pas comment on dit, sont nés assez rapidement. Enfin, en tout cas, avec la naissance d'Internet, on sait que, je sais pas, faire un journal et surtout avec une distribution dans les kiosques, donc par les NMPP ou le MLP, ça coûte très cher. Déjà, il faut imprimer tout ça. Donc, une information libre, Internet, c'est l'idéal.
Ah oui. Voilà, parce que sur papier, t'as forcément affaire à la pub, enfin donc de faire vendre des espaces publicitaires pour pouvoir vivre, donc du coup c'est plus indépendant, enfin tous ces problématiques.
Mais, mais en même temps, il faut de l'argent quoi pour faire des reportages et tout ça et pour payer les gens. Enfin, tu vois, c'est du temps. Enfin, moi je m'en rends pas bien compte, mais je sais pas si pour l'instant il y a tellement de sites qui seraient l'équivalent de journaux qui ont autant de moyens encore qu'un journal pour payer quelqu'un qui part en reportage ou des choses comme ça. Enfin,
c'est... Je pense que des initiatives comme Mediapart, qui s'est lancée assez médiatiquement par comment ça peut dire déjà
Edwin Plenel. Oui. Et qui est payant,
donc voilà, part sur un système d'abonnement, c'est ça. Après, Rue 89, bon, c'est lancé comme une start-up par quelqu'un qui sortait de Libération, Pierre Aski, je crois. Et qui a aussi une équipe de salariés, de reporters,
de pigistes,
beaucoup de
ça. Oui, mais tu vois, ça fait... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça fait pas tant que ça.
C'est vrai.
Par rapport au nombre d'infos qui circulent.
Par exemple, Indie Media, ils avaient trouvé l'argument qu'ils défendaient, c'est que tout le monde partout pouvait faire l'information. Et qu'on regroupait un moment ou par en situation géographique, quoi, indiemedia.fr.ch.be. Mais tout le monde était chargé de faire l'information, tout le monde la propulsait sur le site et que du coup tout le monde pouvait se la faire approprier. Et que du coup tu n'avais pas obligé d'envoyer un envoyé spécial qui ne connaissait rien à l'autre bout du monde. Alors que quelqu'un qui vivait depuis pas mal de temps là-bas, etc., il pouvait s'approprier beaucoup plus vite l'information, la disséquer et leur faire. Mais c'est toujours pareil, il faut savoir comment les contrôler, qu'est-ce qu'on peut justifier.
Quels sont les intérêts de l'auteur,
l'immédiat, ils défendent aussi d'avoir un comité de rédaction qui est là, qui défriche, qui vérifie.
Oui, c'est ça que je veux dire.
C'est que ça prend du temps et c'est la plupart des gens qui font l'immédiat, ils travaillent à côté.
Comme pour Wikipédia. Wikipédia, il y a des salariés.
Ouais, c'est une fondation.
Wikipédia, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça va sortir sur papier.
Ils sont fous, c'est l'inverse qu'on doit faire.
Eh ben non, donc ça a tellement de succès que ça va sortir sur papier, un éditeur va éditer.
Mais ils vont faire comment?
Ils vont éditer
comme
quoi?
Le Quid.
Tous les jours, tu auras un feuillet Wikipédia par la poste.
Au moins permettre de contrôler les choses.
Ils vont geler à un moment ils vont geler un instant T le Wikipédia, ils vont l'imprimer.
Ils vont choisir aussi, parce qu'il y a quand
même un choix.
Alors, bien sûr, il y a eu des pamphlets, des gens ont réagi à ça en disant mais c'est plein d'erreurs, c'est bourré d'erreurs. La réponse a été, mais dans la Britannica, il y a des erreurs aussi, c'est normal. Voilà.
Ce qui est rigolo, c'est que moi, ce que j'aime bien dans Wikipédia, c'est justement les débats qui se font. J'aime bien aussi une rue du Tigre, Curieux Magazine Curieux, qui fait justement état de ces débats d'idées sur comment on construit un argumentaire Wikipédia, quels intérêts sont en jeu. Le plan B aussi avait fait l'écho de Philippe Corcuff qui avait balancé son nom sur plein d'articles Wikipédia pour qu'on parle de lui. Ces trucs-là, on les verra pas dans le papier, j'imagine. Enfin, il va pas y avoir 150 000 notes à la fin qui disent
B43 de Nantes. Pascal Sevran est bien mort, donc ça, je pense que ce sera bien dedans.
Ils ont juste
à changer la date. Ils ont prévu déjà Sœur Emmanuelle est dedans aussi.
Et en fait, il y aura une encyclopédie de mort. Quoi.
Jean-Pierre Elkabbach
aussi. Donc là on est en train de parler justement d'une dérive de juste cette information sur Internet d'immédiateté qui provoque aussi pas mal d'erreurs et Wikipédia. Et on pourrait aussi parler de la mainmise de Google sur notre recherche d'informations. On est tous...
mainmise quand on s'y plie.
Voilà, quand on s'y plie. Là, je pense que ce serait intéressant aussi d'en parler parce qu'il y a d'autres moteurs de recherche qui portent un nom d'ailleurs.
OSIC, Exalid. Pas Altavista existe encore.
Et il y a même OSIC, c'est pas mal d'ailleurs. Tu peux expliquer le principe parce que,
Alors oui, WhoSIC, qui s'écrit H-O-O et SIC comme chercher en anglais, S-E-E-K. C'est un moteur de recherche solidaire qui s'est monté d'une façon un peu alternative. Je crois qu'ils utilisent en fait une partie des technologies de Google. Et de la même façon, ils utilisent aussi la façon dont Google gagne de l'argent, c'est-à-dire en collectant les informations des recherches, c'est-à-dire toutes ces traces qu'on laisse derrière nous quand on surfe innocemment sur Internet et qu'on s'imagine que personne n'en sait jamais rien. Faux. Tout le monde sait ce qu'on regarde, ce qu'on cherche, et donc quel site on consulte, et tout ça font des statistiques qui sont revendues ensuite. Et donc OSIC explique comment vivent les sites, les moteurs de recherche, comment ils peuvent ensuite vendre de la publicité, etc. Et nous aussi, on collecte vos informations, seulement on vous le dit. Et en plus, les sous qu'on fait avec ça, on en garde un certain pourcentage. J'avoue avoir oublié quel pourcentage.
Ouais, c'est assez faible, mais je pense qu'après, en termes de connexion, le nombre de connexions, ça doit.
Enfin, oui,
je
ne sais pas trop. De vivre. Et un autre pourcentage est alloué à des organismes, des associations.
On peut même choisir les organismes, c'est un peu comme...
Des organismes caritatifs, on va dire, enfin en tout cas d'intérêt public, à qui on peut reverser le résultat qui sera généré par ces recherches. Donc, par exemple, moi j'ai cliqué sur la famille digitale, à chaque fois que je cherche un truc sur OSIC, il y a 0,001 euro qui part à la famille digitale. Ou droit au logement aussi, ou Reporters sans frontières, ou les faucheurs OGM, Réseau éducation sans frontières. Enfin voilà, on a je ne sais pas combien de centaines d'associations qu'on peut choisir, et comme ça on offre nos petits, notre petite connexion et les informations qu'on laisse derrière nous à ces assos-là. C'est pas bête comme principe, jusqu'à...
Ouais, c'est intéressant parce que les moteurs de recherche, ça a quand même complètement changé la méthodologie de recherche des gens. Que du coup, ils cliquent, ils recherchent un truc, ils tapent livre marrant. Et ils ont ce qui se vend le plus comme livre marrant. Et donc c'est quand même pas la même chose que d'aller voir quelqu'un qui va te conseiller suivant tes goûts, machin. Enfin,
Livre marrant.
Voilà.
Je voudrais un livre marrant.
Voilà.
De même que pour faire des recherches encyclopédiques, il y a pas loin de chez nous des endroits où il y a plein d'encyclopédies en libre service. Mmh. Ça s'appelle.
Des bibliothèques ?
Ouais, oui.
Ah bon ?
Eh oui.
Des quoi ?
Eh oui, des bibliothèques.
Non, mais c'est intéressant parce que du coup ça biaise quand même pas mal de choses sur comment y appréhender tout ce qui se fait par rapport aux gens, quoi.
Voilà.
Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Meet you, hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, when the bliss free raged and the body stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my glee while you kings and queens fought for 10 decades for the gods they made.
of wealth and taste. Highly transformed troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my name. Oh yeah. Get down in it.
De Mick Jagger par Hélène était parfaite.
Mieux que Portishead.
Mick Jagger.
Mick Jagger.
On est là pour ça.
Sur Pulsar 95.9. Bon, je sais pas si on va désannoncer ce titre parce que.
Tout le monde le connaît.
Tout le monde le connaît.
Allez, je vais lire un truc.
Le meilleur titre du monde, débat, du meilleur album du monde.
Oui.
En 1968, le plus grand cinéaste du monde filme le plus grand groupe du monde en train d'enregistrer la plus grande chanson du monde. Le film s'appelle One Plus One. C'est le plus grand film du monde, c'est pourquoi vous ne l'avez pas vu et il faut que je raconte. Une première heure a passé. Mick est seul, sain de paravent, en place pour l'apprécier. Musique dans son casque, mais percussions jouées live, audible par le spectateur, pas vous. Mick articule le premier couplet, pas encore la version que j'ai découvert en 87. Pas exactement la même extension, inégalable. Puis la caméra quitte le chanteur, mis sur rail, et va chercher, au-delà du paravent arrière, en profondeur, sept corps groupés en cercle, autour d'un micro suspendu. Parmi eux, l'un semble plus attentif que les autres à la partition façonnée à mesure par le chant, par-delà le paravent. C'est lui qui maintenant s'agite sous le micro, concentré, tête baissée, sur le moment où il faudra donner le départ, et ça vient. Début du deuxième couplet, il donne de l'élan à ses bras, puis il lance vers l'avant, et tout le monde fait. Ce type, c'est Case. Mick peut se relever totalement sur son achat. Il sait que là où il se tient, Case fait celui à l'affaire. Applique les consignes méditées de concert, car l'alchimie tout de même se prémédite. Insuffle aux autres ce que tous deux ont inventé. Cœur pourri sublime. One Mick plus One Case, c'est pas tout. Merci. Je vais en lire un autre petit bout parce que ça vaut le coup quand même. On l'a dit et on a eu raison, 68 c'est la rencontre d'Elvis Presley et de Marx. Je précise, c'est la rencontre de Marx et d'Elvis électrisé. De ce cocktail plus puissant que le Molotov, les Stones ont fait un album, qui est le plus grand album du monde, qui s'appelle Beggar's Banquet, et qui est sorti en décembre en queue de la comète 68, ramassant tout le pactole énergétique. Jamais des guitares n'avaient cinglé autant que le solo de Sympathy for the Devil, autant que celle de Stray Cat Blues. Bet your mother, don't know you scream like that. Oh non, les pères et les mères ne s'oubliaient pas que leur créature en viendrait, criant comme ça, à dissembler d'eux à ce point, et leur créature n'envisageait pas à quel point, coupant le cordon organique pour brancher leur cœur sur des amplis Marshall, elle se modifierait et finirait par dissembler d'elle-même. Au cœur de ce cyclone trône Mick et son band, eux-mêmes convertis à une vitesse qui ne procède qu'à moitié d'eux, menant la danse, menée par elle. Fin de One Plus One, plus grand film du monde. Les Stones, moins Brian Jones, sont assis les uns en face des autres sur la moquette du studio. Au centre, un carré vert devant lequel se tient Case. Autour, des panneaux orange, du sol rose et trois projecteurs. À gauche se tient Mick, à droite Bill s'accorde et au premier plan, Charlie glandouille avec ses baguettes, lançant de flegmatiques œillades à la caméra. Mick tape vaguement sur des darbukas, accompagnant Case qui joue et rejoue les mêmes accords, plaqué Seb comme il le fait depuis la révolution électrique. Un type vient parler à l'oreille de Mick, lequel s'interrompt à peine pour l'écouter, ou s'interrompt à peine de parler pour taper sur ses peaux. Désinvolture, force tranquille, souveraineté. Ils savent que le morceau va venir, qu'il viendra en son temps, que l'année va déposer sa mesure sur le manche des guitares, qu'il n'y a qu'à s'asseoir là, en plein milieu de 68, pour que jaillisse Beggar Banquet, le plus grand album du monde. Ils ne seront plus jamais aussi forts. Alors après, le magnifique, le plus grand morceau du monde par le plus grand groupe de rock du monde, donc Sympathy for the Devil par les Rolling Stones, on va vous parler d'un, je sais pas si c'est le plus grand bouquin du monde, mais qui parle de, un peu du plus grand film du monde et du plus grand documentaire du monde autour du plus grand groupe de rock du monde, qui parle beaucoup de la plus grande chanson du monde, mais qu'on en fait plusieurs.
Oui, mais le monde est petit.
Mais le monde est tout petit. Donc c'était un démocrate, Mick Jagger, 1960-1969, des extraits du livre de François Bégaudeau. Donc on a déjà beaucoup parlé quand même, François Bégaudeau. Hein.
C'est un, on l'aime c'est un... bien, François Bégaudeau.
Surtout Isabelle. Ah, on est tous d'accord là-dessus quand même. Voilà, donc François Bégaudeau qui a chanté du punk, qui a été critique au Cahier du cinéma, donc il connaît un peu de quoi il parle, qui a publié des romans et qui connaît très bien les Rolling Stones et le rock'n'roll en général.
Critique littéraire aussi par ailleurs, critique sur Canal+.
Ah, littéraire.
Oui.
Ah, je sais pas. Ouais. Parce que les critiques cinéma sur Canal+, elles sont bien, je ne sais pas trop même.
Ah ben, par contre, ces critiques littéraires sont de bonne loi. Oui. Par contre, lui, quand il écrit des romans, moi, je suis moins convaincue, mais bon.
Eh ben, écoute, moi, celui-là, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça plutôt très chouette. Comme vous avez pu le voir dans les extraits que j'articule très mal comme d'habitude.
On voit que t'as appris l'anglais avec Jean-Pierre Raffarin.
Ouais.
Ça y est, là.
Don't you know? Il y en a comme ça, des trucs comme ça. Yeah.
All right.
All right. Yeah.
C'est surtout Sympathy for the Devil.
Sympathy for the Devil. Comme ça, faut faire. Un peu à l'anglais. Et en fait, c'est un très beau bouquin sur Mick Jagger qui raconte que Mick Jagger est né en 1960 et mort en 1969.
C'est Wikipédia qui le dit?
Eh bien non. Il n'est pas d'accord avec Wikipédia.
C'est une interprétation de l'histoire.
Voilà. Hein. Et c'est très beau parce qu'en fait, avec quand même son idéologie marxiste quand même qui traîne un peu derrière, hein, le rapport à la foule, à la masse, à tout ce qui peut drainer, à tout le rôle de l'histoire par rapport à l'art, comment des artistes à un moment jouent avec les foules, avec les masses, et comment les masses jouent avec les icônes qui drainent. Et comment ils se font reflet d'une époque ou comment ils font leur époque.
Oui, ça c'est assez voilà. Là,
comment l'icône, le corps se crée, le corps de Mick Jagger a incarné des choses et qu'après. Et puis surtout beaucoup de musique, d'énergie. Il parle beaucoup, le mot énergie revient très souvent, le mot corps, le mot foule, le mot masse, le mot art.
D'ailleurs,
le
si
mot
je peux
révolution.
Me permettre, c'est eux qui vieillissent le mieux. Dans la série, parce que ça fait.
C'est vrai que John Lennon, il a pas trop mieux.
Voilà, c'est par exemple, il est un peu palo.
Non, mais son interprétation de la fin est assez intéressante là, sur le dernier concert à je sais plus où, dont il parle. Donc Mick Jagger a failli se faire assassiné, qui était un concert gratuit, le premier qu'il faisait. Avant, c'était payant et il était plutôt content de faire ça. Et finalement, ça a assez mal
tourné.
Ouais, ça a assez mal tourné. C'était la première fois où il y avait une espèce, apparemment, de dissension entre le groupe sur scène et la foule. Où, voilà.
C'est là où il y a un mec qui a été tué par les Hells Angels.
Oui, c'est ça. Oui. Mais en fait, c'est celui qui essayait visiblement de tirer sur une des personnes du groupe et vraisemblablement sur Mick Jagger.
Ah ouais, parce que moi j'ai vu le film avec Gimme Shelter qui parle de ce truc-là, on n'a pas trop, je me rappelle pas que le mec voulait tirer sur Mick Jagger.
Je
ne
sais pas si c'est une... Voilà,
il me semblait même qu'il avait plutôt un couteau qu'un flingue, mais je me rappelle peut-être mal.
Non, c'est les autres qui avaient des couteaux.
Ah, oui,
ouais, c'est, ils l'ont poignardé en fait, mais pas mal en fait, il était beaucoup sur lui et ça n'a pas très bien fini.
Et voilà ce qu'il dit aussi qui est chouette je trouve, c'est que c'était un groupe qui jusque-là n'avait pas peur. Et voilà, n'avait pas peur à la fois de faire des choses nouvelles, d'aller vers les gens, d'être des stars et en même temps de pas forcément vouloir être super protégé et tout ça. Et que ce concert-là, ça marque aussi un tournant de ce point de vue, c'est qu'ils sont repartis avec les flics qui les entouraient pour reprendre l'hélicoptère et que voilà, c'était une nouvelle époque qui apparaissait aussi et que ça marquait un peu la fin... à la fois de 68, des idéaux qui avaient pu être défendus, et eux, de leur façon de faire de la musique, peut-être, et de leur rapport au public, en tout cas. Et ça, je trouve ça pas mal. Bon, alors, c'est vraiment sa version, et c'est très... c'est assez politique, quoi, mais...
C'est vraiment une prise de position très politique sur ce qu'a pu être les Stones, à un moment. Mais c'est vraiment joli, parce que du coup, il arrive vraiment à réinscrire leur... politiquement leur musique et dans l'histoire, dans la création, par rapport aux événements, s'il revient souvent sur les années, sur l'évolution, par rapport aux albums, comment ils reflètent des événements précis. Et tout ça avec une écriture quand même qui est assez chouette, quoi.
Oui, oui, et c'est marrant parce que ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait penser à un livre récent dont j'avais parlé, là, le livre d'Annie Ernaux, Les années, parce que c'est ça, il y a une façon, enfin, il y a un truc assez personnel et en même temps, voilà, de parler de toute une époque, d'un groupe, d'un collectif, de ce qui se passait dans le monde, et ouais, c'est plutôt bien. Moi qui suis pas super forte en musique, en rock'n'roll et compagnie, non, mais je veux dire, on peut même y prendre du plaisir.
Alors qu'on sait pas quelle musique il y a derrière les paroles,
ouais,
les titres
forcément,
des chansons.
À part ouh, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait, mais sinon, voilà, c'est pas le groupe que je connais particulièrement bien, mais je sais pas, tu t'attaches à cette histoire-là quand même, quoi.
Ouais, puis parce que en plus c'est souvent ça par l'œil de donc du cinéma, il parle beaucoup donc de One Plus One de Godard et de Gimme Shelter des frères Armel. Et vraiment One Plus One c'est l'apothéose et Gimme Shelter c'est la fin. Et c'est assez chouette parce que du coup il décrypte un peu comment même en décryptant comment Godard les filme et ce qui se passe dans les cadres, il arrive à analyser ce qui est en train de se créer et l'imbrication qu'il y a avec leur musique et du coup leur époque, enfin. Pour le coup, One Plus One, c'est vrai que c'est certainement des plus grands films du monde, mais du coup, c'est assez chouette parce que lui, je pense qu'il est vraiment parti de One Plus One en fait pour écrire le bouquin, parce que c'est
oui,
donc,
parce
pour,
que
pour
ça,
ceux qui l'ont pas vu,
One
Plus
One, One
c'est des scènes du tournage de l'enregistrement donc de Sympathy for the Devil qu'on vient d'écouter pour l'album Baker's Banquet, donc plusieurs séances d'enregistrement. Avec un gros travelling, c'est super chouette, machin, et entrecoupé de scènes mis en scène de façon très politique, donc les Black Panthers, des scènes dans des librairies avec des nazis, des scènes avec des actrices dans la forêt qui gueulent contre des journalistes, plein de choses très très réjouissantes. Et je pense qu'il est parti de ce rapport-là, en fait, l'imbrication qu'il peut y avoir entre eux, des gens qui étaient déjà adulés, et qui étaient au sommet de leur art, je pense, vraiment, et après commence à s'imbriquer avec vraiment de la politique de façon plus généralisante, et ça c'est voilà, c'est très
et c'est toujours un groupe qui fascine les cinéastes puisque
ouais parce que Scorsese a fait son film dessus
qui paraît très bon même si pas encore vu.
Mais moi je suis assez d'accord avec cette théorie en fait le truc de
naître, je suis complètement d'accord aussi
naître en 60 et puis mourir en 69, je pense que c'est très vrai que du coup c'est quelqu'un c'est des gens vraiment qui incarnent quelque chose qui sont nés en soi, il est né en fait, il dit qu'il est né en 60 quand il a 17 ans quand il a rentré Caisse Richards et que c'est vraiment ça qu'ils sont fondés, c'était une je pense enfin peut-être un truc de qu'on se construit un moment où on rencontre des gens avec qui on peut s'associer et créer ensemble et qu'on meurt à partir du moment où on a peur de ce qu'on est, ce qu'on représente et
de leur
rapport aux autres
et c'est à ce moment-là d'ailleurs entre 69 et 77 qui l'avènement du punk, on avait que ça comme on avait que des groupes des grands groupes quoi, c'était en Angleterre hein, je parle voilà, il y avait plus il n'y avait pas de musique proche, les concerts étaient chers, et c'est le mouvement punk aussi est né.
Ils font exactement ça, ouais.
C'est
il dit ça,
c'est mais François
et
moi.
Lui, il dit 75, donc là après, bon, là ça devient des petites bières.
75 pour les États-Unis. Pour
les Bee Gees,
c'est vrai, c'est vrai. Mais les Rolling Stones sont anglais.
Oui.
Hein
oui.
Voilà.
Mais donc, il dit, par exemple, très chouette, il dit, par exemple, puisqu'on a laissé le rock à l'agonie dans les années 70, quand renaît-il ?
Il y avait les Bay City Rollers, je vous raconte pas, c'était monstrueux, c'était des concerts mais il n'y avait rien d'intéressant, quoi.
Ouais, et puis il dit qu'on est passé d'une conception de groupe de rock à des solistes de rock.
Ouais, aussi. Voilà, des gens qui incarnaient, c'était.
Ça aussi, ça dit quelque chose un peu politique, quoi. Un peu d'utopie, justement, collective pour un truc plus individualiste. Et l'autre truc qu'il dit, ouais, que moi je trouve, enfin voilà, sans rien y connaître, mais je sais pas, il dit c'est aussi le dernier rocker heureux, quoi. Que maintenant on est plus dans des trucs de mélancolie, de oh là là, comment faire, c'est dur la vie, dans quelle étagère et tout. Et que, voilà, pas lui, il est dans un truc, vraiment énergique et de joie, quoi. Enfin,
En fait, se droguer pas mal, hein, c'est... Enfin, non, mais je veux pas apporter la contradiction,
mais il en parle, mais en même temps, il dit qu'il s'est jamais mis en danger complètement. Enfin,
mais c'est normal, il avait un père, Mick Jagger, qui lui avait dit, fils, tu n'as qu'un seul corps. Est-ce qu'il le dit, François Bégodeau?
Non.
Tu n'as qu'un seul corps. Donc ah, si, Mick Jagger voue à son corps un culte. On le voit, mais complètement. Aujourd'hui, c'est quand je disais qu'il vieillisse bien, enfin qu'il vieillissait bien, c'est sûr, je pense surtout à lui. Quoi. Il est toujours.
Ah non, Iggy Pop.
Iggy Pop fait beaucoup de muscu, Iggy Pop est dans le muscle.
Après, on peut revenir.
Alors que Mick Jagger, il est dans le glamour, de dos.
Il paraît qu'ils font refaire leur sang.
Oui.
Aux États-Unis.
Non, bah c'est.
Oui. La légende voudrait. Voilà. Bon, voilà, un très bon bouquin, qui est pas cher. Et en plus, c'était une très belle couverture qui est assez.
Aux
éditions Naïves.
Une couverture qui ressemble à une pochette de disque des Rolling Stones de l'époque.
Exactement.
Il ressemble à. Je sais pas si vous voyez qui c'est, cette comédienne. Je trouve qu'il ressemble énormément à Hélène Filière.
Ah, j'adore Hélène Filière.
C'est assez étonnant.
Il ressemble à une pochette d'album de Brigitte Fontaine, donc c'est Keke Lang.
Ah oui, c'est vrai que lui il dit vraiment que c'est revenu qu'avec le punk rock, qu'on a perdu ça, que c'était ça et que c'est que le punk rock qui a réussi à réinventer ça.
Et les amis, il y a Thomas qui va mettre de la musique.
Ouais, d'accord, on s'en va.
Hoshino kodoku wo shitta toki Hajimete namida ga deru to yu Ikiteru koto ga kake dakara Onna hitori yume wo mita Kizutsu Koi no nigasa o shitta toki Hajimete otona ni naru to yu Aisuru koto ga kake dakara Onna hitori yume o mita Sono hi kara
Bien, ce magnifique solo de guimbarde japonaise vous a été offert par Meiko Keiji, donc qui était. On est resté dans les années 70 et c'est ce qui se faisait de mieux au Japon, enfin pas vraiment, mais en tout cas à la Nikatsu. En tout cas, voilà, Meiko Keiji, c'était la femme scorpion, c'était l'héroïne des films Z au Japon et c'était également une chanteuse. Voilà, et on la connaît pour la femme scorpion également, les menottes rouges. Mais on parlera du Japon.
On récapitule fois. Ouais, merci. Prochaine fois le Japon. Donc, Meiko Keiji juste avant. Avant ça, on a parlé du bouquin de François Bégodeau.
Un démocrate Mick Jagger, 1960-1969.
Aux éditions Naïves. On a écouté donc Sympathy for the Devil sur l'album Beggar's Banquet. On a eu une discussion sur les nouveaux médias, comme on peut dire, sur la diffusion de livres, de presse sur Internet. On a écouté. Qu'est-ce qu'on a écouté, Isabelle?
On a écouté Canard Sauvage. Parle dans le micro, Isabelle. Sur l'album qui s'appelle
Music Hall.
Music Hall.
Et avant ça, on avait parlé de Mon frère nocturne, donc de Johanna Elgren, donc aux éditions Cambourakis, et donc du goût du paradis, Le goût du paradis de Nina Antico chez Ego Comics. On avait deux trois trucs à annoncer. Qui va le premier? Ben, pour demain soir?
Oui, demain soir, donc je sais pas si vous êtes au courant, il y a un squat qui s'est monté là, qui s'appelle la Chianli, qui est juste en dessous du
parking Rivaux.
Du parking Rivaux, du parc Double Sac.
Voilà.
Et demain soir, il y a une petite projection de film pour soutenir ce lieu qui va certainement disparaître puisqu'ils sont désormais éjectable à tout moment.
Ils ont fait
donc ils font des soirées, voilà, il y a une soirée ce soir déjà, il y a des concerts, demain soir il y a des projections avec des films super
magnifiques.
Bien. Super bien.
Et bon, on est Nécessaire Territoire de Melo Pérou.
et puis voilà, il y aura des concerts vendredi, enfin voilà, ça vaut le coup d'aller voir, au moins aller voir ce que vous en pensez de tout ça, c'est très bien.
Faut parce qu'il y a un peu un projet de société derrière.
Voilà, c'est quand même une... c'est un grand projet politique, autonome, etc. Faut y aller.
Un peu années 60.
On revient bien.
Emma voulait parler d'une autre, autre manifestation politique.
Non, je voulais juste dire aux gens, pour une fois, d'aller consommer au Cordelier le samedi 17 à 17h. Voilà, c'est
samedi
tout.
17 mai à 17h.
Voilà, 17
mai à
17h. Voilà, une surprise.
Très bien.
Et tous à la manif demain.
Tous à la manif, oui.
Et après dimanche, à Paris.
Et c'était On est là pour
c'est
ça.
C'est pas le 1er mai pour demain.
C'était On est là pour ça. À la semaine prochaine. À bientôt.
Sur Radio Pulsar.
Et voilà. Et on finit avec
Cats and Dogs de la même Camille.
Ah, ça marche.
Miaou.
Ça marche ou pas?
Dogs are not our friends, they just pretend, they just pretend. It's just emotions we invent, like photographs we put on shelves. Cats and dogs are not our friends, scratch their ears, they'll wave their tails. And if it rains again next weekend, it's all because of them. Little doggy, come to moi.
Bonsoir, bonsoir à tous. Un peu de mieux du côté de l'inflation. Elle s'est très légèrement modérée en France en avril, mais elle s'est toutefois maintenue à un niveau élevé de 3% sur un an contre 3,2% le mois précédent. Elle